La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'Apulé à Annie Ernaux, de Goethe à Kundera, les écrivains ne manquent pas qui ont parlé d'amour, ou plutôt qui l'ont représenté et éclairé. On peut même aller jusqu'à dire, comme le fait d'ailleurs Pierre Lepape que je recevais lundi dernier, que c'est le roman qui a inventé l'amour et non l'amour qui s'est glissé dans le roman. Une conception bien lointaine du divertissement pour jeunes filles que serait fondamentalement ce genre. Un cliché que les romans à l'eau de rose et les comédies romantiques n'ont pas cessé pourtant d'enraciner. Nous parlons donc de l'amour dans la littérature jusqu'à demain avec un panorama lundi dernier, suivi hier d'une analyse de Tristan et Iseult par Christiane Marchello-Nisia. Et nous conclurons demain sur l'amour dans La Chartreuse de Parme d'une part et Le songe d'une nuit d'été de l'autre, afin d'aider aussi les élèves de classe prépa scientifique qui planchent sur ces deux œuvres en vue des concours de cette année. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du grand roman de D.H. Lawrence, L'amant de Lady Chatterley, nous sommes avec Catherine Millet, écrivaine et directrice de la rédaction du magazine Art Press. Elle a publié en 2017 l'essai Aimer Lawrence chez Flammarion, dans lequel elle raconte son rapport à l'écrivain anglais tout en analysant son œuvre. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Malgré tout ce qu'on pourra dire, je déclare que ce roman est un livre honnête, sain et nécessaire aux hommes d'aujourd'hui. Les mots qui d'abord semblent scandaleux ne scandalisent plus du tout au bout d'un moment. Est-ce parce que notre intelligence est dépravée par l'habitude ? Nullement. C'est simplement que les mots scandalisent notre œil, mais ils n'ont jamais scandalisé notre esprit. Que les gens sans esprit continuent donc de se scandaliser, ils ne comptent pas.
Bien entendre les premiers mots de l'amant de Lady Chatterley, lu ici par Guillaume Gallienne. Bonjour Catherine Millet.
Bonjour.
On vous connaît dans le monde entier, ou presque, pour votre récit La vie sexuelle de Catherine M, sorti au printemps 2001 aux éditions du Seuil. C'était dans la collection Fiction et compagnie, dirigée alors par Denis Roche. Un livre qui avait fait l'effet d'une bombe au point de scandaliser les lecteurs les plus prudes, au point de les choquer, avant qu'ils ne vous choquent vous-même, car leurs réactions ont parfois été très violentes. Et c'est peut-être le premier point commun qu'on peut trouver entre vous et David Herbert Lawrence, parce que lui-même évidemment a fait scandale au moment de la sortie de son roman L'amant de Lady Chatterley.
Oui, enfin moi, sauf que moi j'ai pas été interdite. Lui, il a pas vu de son vivant son livre sortir dans son propre pays, puisque il a été publié à compte d'auteur, on peut dire, en 1928, ce livre. Et les Anglais ont pu le lire, disons ouvertement, en 1960 seulement. Les Français d'ailleurs avaient lu la traduction bien avant, comme quoi, en tout cas à l'époque, la France était un pays plus ouvert que l'Angleterre.
Enfin, ça veut dire que les temps quand même ont changé.
Oui, les temps ont changé. Moi, je dirais pas que mon livre avait fait scandale. Bien sûr qu'il y a eu des articles très très hostiles, mais dans l'ensemble, ça a quand même été plutôt un succès inattendu d'ailleurs, aussi bien de ma part que de la part de...
Imaginez s'il avait été interdit, le succès que ça aurait été.
Zut alors.
Vous êtes vraiment, vous êtes passé à côté de quelque chose. Il y avait un autre scandale dans la vie de Lawrence, c'est qu'il a été peintre aussi.
Oui.
Ça, on s'en souvient pas beaucoup.
Non.
Il a fait une seule exposition.
Oui.
Elle a été aussi interdite. Je crois que la police est venue.
C'était à peu près à la même époque. Oui, c'était les dernières années de sa vie. Oui.
Alors vous avez donc décidé de consacrer un essai à l'amant de Lady Chatterley. C'était pas gagné d'avance parce que au départ, c'est un roman sur lequel vous aviez un a priori, disons, plutôt négatif.
Oui, parce qu'en fait, fait, l'écriture de Laurence, c'est pas c'est le type d'écriture auquel je pensais m'intéresser, parce que c'est quelqu'un, vous savez, qui écrivait très très vite, qui avait une technique assez particulière, c'est-à-dire qu'il écrivait un premier jet, il le rangeait dans un tiroir et puis recommençait depuis le début son roman. C'est comme ça d'ailleurs que, par exemple, pour Lady Chatterley, on a trois versions du même roman et qui sont nettement différentes l'une de l'autre. Bon, et alors il y a comme ça parfois ce qu'on peut considérer comme des négligences dans le style, des répétitions. Alors moi qui aime bien
le beau français,
peaufiné, voilà, ciselé, etc.
Le bel anglais.
Oui, j'étais un petit peu réticente. Et puis finalement, je suis rentrée d'abord dans Lady Chatterley, c'est le premier des romans que j'ai lus. Et puis j'ai quand même été très très étonnée par certaines scènes, et notamment des scènes d'amour, mmh, et des scènes de relations sexuelles, en fait. Voilà, la façon dont c'était rapporté, ça m'a quand même énormément étonnée. Je m'attendais pas à ça, et du coup je suis rentrée dans cette œuvre, et ce qui m'a donné envie de faire tout un livre sur Laurence, de déclarer ma flamme comme ça à Laurence publiquement,
Laurence.
C'est qu'en fait presque tous ces romans ont pour héroïne une femme, et une femme qui se libère. Voilà. Et je me suis dit, mais on devrait mieux connaître cette littérature, parce que elle résonne par rapport à aujourd'hui, évidemment.
Mais alors, vous dites quand même dans votre essai que vous étiez certes déçu par le style, trop désordonné, trop répétitif, vous venez de le dire à l'instant, mais aussi il y avait quelque chose d'autre qui vous gênait, Catherine Millet, c'est que ce livre vous interrogeait vous-même et vous posait des questions que vous n'aviez peut-être pas envie de vous poser.
Ah bah alors je me souviens plus du tout de ça, c'était quoi? Vous avez la réponse sous les yeux.
Vous reconnaissez avoir voulu vous dérober d'abord à une question trop évidente, celle de savoir ce que Catherine M avait à dire de Constance Chatterley.
Oui, c'est vrai. Alors, pour raconter l'histoire depuis le début, pourquoi j'ai fait ce livre, c'est qu'en fait, un éditeur s'apprêtant à publier un ouvrage qui était un dictionnaire des personnages de romans, s'est adressé à moi pour traiter l'entrée Constance Chatterley. Bon. Et ça m'est apparu comme quelque chose un peu, comme on dit, téléphoné.
Ça vous a agacé?
Ça m'a un peu agacé. Je me suis dit, ah bah oui, forcément, on me demande à moi, parce que c'est un roman avec une réputation sulfureuse, donc on demande à l'auteur sulfureux d'écrire quelque chose. Bon, alors c'est pour ça que j'étais un peu réticente. Et puis peut-être que j'ai senti ou pressenti qu'en fait, ce que je dis d'ailleurs à un autre moment dans le livre, c'est que si j'avais lu, je l'ai lu très tard, hein, Laurent, je le reconnais.
Vous dites que même si vous l'aviez lu plus tôt, ça aurait été sans doute bien.
Est-ce que
vous,
ça m'aurait pas inhibé pour écrire La vie sexuelle de Catherine M?
Alors voilà. Ça vous aurait inhibé peut-être, mais dans votre vie, si vous l'aviez lu par exemple adolescente, ça vous aurait au contraire libéré.
Bon, j'avais pas besoin d'être libérée quand j'étais
adolescente.
Vous le dites
aussi dans votre essai. Hein.
Bon, non, c'est-à-dire, peut-être ça m'aurait fait comprendre des choses plus vite. Non, moi j'ai eu la chance de vivre comme ça mes premières années, disons, d'adulte, tout de suite, avant 68, ou pendant 60, enfin, l'époque 68, quoi. Donc, c'était un moment de très grande liberté. Et en fait, ce que j'aurais pu, voilà. Alors,
ça vous y est. Souvenez maintenant?
Maintenant, je me souviens de mon livre, mais, bah oui, c'est une fois que le livre, il est publié, on se dépêche de l'oublier. Non, peut-être que ça m'aurait fait comprendre, c'était l'importance du plaisir. C'est bizarre, hein, de dire ça. Mm-hmm. Mais j'étais justement, je crois, tellement libérée, tellement disponible, toujours pour une relation, un flirt ou une relation, comme on disait à l'époque, un peu plus poussée, etc., que finalement, je me plaisais là-dedans, dans ces multitudes de relations, et que j'avais pas tellement la hantise de l'orgasme. Voilà, je me posais pas la question, oh là là, est-ce qu'avec ce type-là, tu vas connaître un orgasme? Et ça, alors là, peut-être que si j'avais lu Laurence, ça j'aurais compris. Thank you.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs et vous êtes sur France Culture. Alors, parlons un petit peu de l'histoire de ce livre, L'amant de Lady Chatterley, Catherine Millet. Lady Chatterley est mariée à un riche héritier qui rentre mutilé de la guerre de 14. Et tous les deux s'installent donc à la campagne dans un manoir du nom de Rugby. Et pendant toute une première partie du roman, il est donc question finalement de la vie conjugale des Chatterley. Il est même question avant de leur rencontre et des premières expériences amoureuses de Lady Chatterley. Donc ça pose quand même un décor, c'est pas sans importance.
Non, c'est pas sans importance. D'abord, cet homme qui revient encore très jeune de la guerre, mais mutilé, donc impuissant, donc dans l'impossibilité justement de satisfaire sexuellement de sa femme. Et puis en revanche, cette jeune femme qui est la fille d'un artiste, qui a eu une éducation extrêmement libérale, elle a connu déjà un peu quelques expériences. Elle est sa sœur d'ailleurs, elles ont déjà eu des amis, elles ont déjà eu des relations sexuelles avant le mariage, qui était assez exceptionnel à l'époque, mais enfin qui existait néanmoins. Bon, et elles appartiennent à cette catégorie de femmes comme ça à la fin du 19e et au début du 20e, qui ont été les pionnières, quoi, de la libération des femmes, on peut dire ça comme ça. Donc c'est à la fois une épouse très attentive, très traditionnelle dans sa manière de se comporter, et qui porte un amour sincère à son mari, mais en même temps c'est aussi un esprit libre. Elle participe aux conversations dans le salon en exprimant une opinion qui est pas celle partagée par les autres, par exemple.
Et ils ont une vie tous les deux, c'est également important, qui est basée sur l'écriture, sur la lecture.
Oui.
Parce que Sir Clifford, le mari, est un écrivain. Il aspire d'ailleurs à devenir un écrivain célèbre et reconnu, alors que finalement il n'a peut-être pas grand-chose à dire. Mais c'est un couple très intellectuel.
Oui, c'est un couple intellectuel. C'est un couple assez moderne, hein, d'ailleurs, on peut dire ça, en dépit du fait que ce soit un aristocrate et qui vive à la campagne dans un grand manoir. Mais c'est une aristocratie qui est en train d'évoluer. Justement, c'est cette Angleterre qui a fait, si je puis dire, saigner le cœur de Laurence, parce que elle était en train de s'industrialiser, et ces paysages magnifiques que Laurence était tellement décrivait avec tellement de talent, ils sont en train de disparaître parce que on est en train de creuser des mines partout, quoi, hein, on est en train de chercher du charbon partout. Il était lui-même fils de mineur.
Il était fils de mineur, et depuis le château de Rugby, où vivent donc ce couple de Lady Chatterley et Sir Clifford, on voit la mine qui appartient à Sir Clifford, et on sent bien que cette mine doit toujours être dans le décor.
Oui.
Elle doit toujours être là pour une histoire qui est une histoire d'amour, qui logiquement ne devrait pas avoir besoin de ce décor-là. Pour quelle raison, selon vous, Catherine Millet?
Bah, parce qu'en fait, ce décor, c'est pas simplement un décor, il fait bouger les limites entre les classes sociales. On voit bien d'ailleurs, Constance Chatterley est une fille qui est aussi, justement avec son indépendance d'esprit, très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Elle rend visite à des gens qui sont des mineurs. Elle va dans ses familles comme ça, où elle lie des amitiés. Donc elle est aussi disponible pour éventuellement une rencontre en dehors de sa propre classe sociale. Ça dit ça aussi. Et ça dit la façon dont son mari, ou en tout cas les aristocrates contraints de devenir des industriels d'ailleurs, sont déstabilisés par cette situation sociale nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les paysans qui deviennent des ouvriers, des mineurs, il y a aussi les aristocrates qui deviennent des patrons. Bon, et à côté de ces aristocrates, eh ben il y a des femmes, et il y en avait beaucoup dans la réalité autour de Laurence qui ont pu lui servir de modèle pour Lady Chatterley. Bon, des femmes disons de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie, eh bien qui commençaient à regarder les hommes dans des classes sociales qui n'étaient pas la leur.
Alors il y a ça, c'est vrai, c'est même très important, on va y revenir. Il y a peut-être aussi en arrière-fond la révolution industrielle,
oui.
Qui est une atteinte à la nature, parce que ces mines, elles exploitent la nature, elles font de la fumée, enfin c'est sale évidemment la mine. Or, le garde-chasse dont va tomber amoureuse Lady Chatterley, lui, il vit précisément au milieu de la forêt. Et il y a donc tout un rapport avec la nature.
Alors, ce qui est très beau chez Laurence, c'est comment tout s'articule entre, bien sûr, la réflexion sociale, bien sûr, l'analyse psychologique des personnages, et puis la nature. Et par exemple, il y a un thème qui revient tout le temps chez ce fils de mineur, donc je répète, il y a un thème qui revient tout le temps, c'est celui des fougères. Mmh. Et pourquoi les fougères? Pourquoi ces plantes qui sont en effet très belles, mais bon, alors, on dira, on en trouvait sans doute à profusion dans les forêts avant que le paysage soit déboisé. Bon, donc dans la campagne anglaise, mais la fougère, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'années, c'est ce qui a donné les fossiles dont on sort le charbon, ouais. En fait, la houille. Bon, donc c'est très beau parce que vous avez tout à fait raison de souligner comme ça cette relation, parce qu'il y a une scène très très belle dans Lady Chatterley où les deux amants, l'aristocrate et puis son garde-chasse, se cachent dans la forêt pour faire l'amour sous des fougères, sous des très grandes fougères. Et donc ces fougères, on peut imaginer qu'elles sont les lointaines descendantes de celles qui, fossilisées, donnent le charbon qu'on va extraire quelques kilomètres plus loin.
Donc ils sèment en pleine nature, alors que...
Mais c'est encore la nature, vous avez raison, on n'a pas encore creusé le puits pour aller chercher le charbon.
Tandis que enfermé dans le château de Rugby se trouve Sir Clifford, qui ne peut en sortir que très difficilement puisqu'il est paralysé.
Depuis qu'il était estropié, Clifford était devenu très timide. Il détestait voir des gens, sauf ses domestiques personnels, parce qu'il devait rester assis dans un fauteuil roulant ou une sorte de petite voiture. Cependant, ses couteaux tailleurs l'habillaient toujours avec le même soin, et il portait, comme par le passé, les belles cravates de Bond Street. Et le haut de sa personne gardait son chic impressionnant d'autrefois. Il n'avait jamais été un de ces jeunes gens efféminés fréquents de nos jours. Il était même plutôt campagnard, avec son teint coloré et ses larges épaules. Mais sa voix, très calme et hésitante, et ses yeux à la fois audacieux et craintifs, asservis et incertains, révélaient sa vraie nature. Sa manière d'être était souvent hostilement hautaine, et puis redevenait modeste, effacée, presque tremblante. Constance et lui étaient attachés l'un à l'autre à la façon moderne, en gardant des distances. Profondément atteint par le choc qui l'avait mutilé, il avait perdu sa légèreté et son aisance. Il était une chose qui souffrait. Et pour autant, Constance tenait passionnément à lui. Clifford dépendait entièrement d'elle. Il avait besoin d'elle à chaque instant. Tout grand et fort qu'il était, il ne pouvait rien faire seul. Il pouvait aller et venir dans un fauteuil roulant et il avait une sorte de petite voiture à moteur pour faire le tour du parc, mais seul, il n'était qu'une chose perdue. Il avait besoin de la présence de Constance pour se persuader qu'il vivait encore.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors le personnage de Clifford, Sir Clifford même, Catherine Millier, qu'est-ce qu'il représente? Parce qu'il est tout de même très présent dans cette histoire. Il n'y aurait pas d'histoire sans Sir Clifford.
Oui, moi je trouve qu'il il symbolise très bien cette fragilisation des hommes à cette époque-là, qui sont rentrés de la guerre, abîmé, parce que même s'ils ne rentraient pas de la guerre, d'abord il fallait qu'ils en reviennent. Et puis, s'ils en venaient pas mutilés, ils en revenaient blessés quand même, forcément, au fond d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient à leur retour? Ils trouvaient des femmes qui étaient devenues très exigeantes. D'abord parce qu'elles avaient fait tourner la machine pendant qu'eux étaient au front. Que du coup, elles avaient pris goût à la liberté. Elles étaient, bien sûr, il avait fallu qu'elles travaillent, mais en même temps, elles étaient libres. Bon, libres et responsables. Elles avaient élevé les enfants, elles les avaient nourris. Hein. Et ces femmes-là, voyant rentrer ces hommes très très fragiles, étaient d'autant plus amenées peut-être à regarder, à chercher des hommes qui n'avaient pas cette fragilité.
Comme par exemple le garde-chasse.
Bah, le garde-chasse, oui.
Du coup, la manière dont Sir Clifford est présenté, efféminé, mais en même temps... avec un physique un peu campagnard, c'est une façon de toujours remettre la virilité sur le devant de la scène. Pourquoi la virilité est-elle si importante?
Parce qu'elle est menacée, parce qu'elle est très menacée à cette époque-là. Enfin, je le répète, la preuve, il a peut-être ce physique de campagnard, il a peut-être ses épaules larges, mais ça s'arrête, cette force, au niveau de la taille. Il a perdu sa puissance virile. Et il se trouve à un moment donné, et ça je trouve que c'est très beau d'avoir imaginé, disons, cette générosité de cet homme, parce que bien sûr, il faut aussi continuer le nom. Il a son, il a sa morale d'aristocrate et il propose une sorte de marché à Constance. Elle a le droit de prendre un amant, puisque d'abord pour satisfaire elle son désir d'enfant et lui pour que le nom puisse continuer à vivre.
D'ailleurs, le père de Constance est également d'avis que finalement elle pourrait avoir un amant. Ce serait bien pour elle.
Je crois qu'on est dans un milieu qui est très 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 ouvert, très très libéral, et ça, l'Angleterre a été un modèle pour ça quand même à cette époque-là. Oui.
Donc Constance cherche la virilité chez l'homme, elle cherche le plaisir féminin, et c'est un roman qui parle beaucoup de comment les hommes ne savent pas donner du plaisir aux femmes.
Oui.
Ou ne peuvent pas, parce qu'ils ont été mutilés.
Alors, ne peuvent pas ou ne savent pas, parce que, alors, une chose qu'on oublie souvent à propos de Lady Chatterley, c'est que, avant de rencontrer Bellors, le garde-chasse, elle a une autre aventure adultère,
Avec un Américain.
Avec un jeune homme qui est un ami, comme ça, du couple, qui vient passer quelques jours chez eux. C'est lui-même un intellectuel, c'est un auteur de théâtre à succès. Et elle a une aventure avec lui, elle se laisse séduire par lui. Simplement, et je crois que c'est à deux reprises dans le roman, ils font l'amour. Et elle n'a pas de plaisir. Et lui, d'ailleurs, ça l'agace un peu. Il trouve qu'elle exagère un peu, lui, qui doit être tellement narcissique et tellement sûr de lui. Ça l'énerve un peu, cette fille qui arrive pas à jouir.
Mais c'est parce qu'il pense trop à lui-même, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'il pense sans doute beaucoup trop à son propre plaisir à lui. Et comme, j'imagine, beaucoup d'hommes à cette époque, du moment que lui avait pris son plaisir, la femme devait l'avoir pris aussi. Mmh. Bon. Et ce qui est merveilleux, et c'est quand je parlais tout à l'heure de ma découverte de ce roman, c'est en fait la découverte que Laurence a réfléchi à l'insatisfaction sexuelle des femmes. C'est ça, c'était ça le thème au début. C'est pas simplement le fait d'avoir une morale assez libre. C'est pas seulement ça. C'est aussi qu'il faut pouvoir trouver du plaisir. Il faut rencontrer l'orgasme.
Et est-ce que vous êtes demandé pourquoi il a eu cette démarche-là? Ça fait partie aussi des interrogations qui ont mené à l'écriture de votre essai.
Moi, je pense, il avait la passion des femmes. Je dirais qu'il avait la passion des femmes. Il n'a pas choisi de vivre avec n'importe laquelle. Hein. Il a choisi de vivre avec une femme qui avait un très fort caractère et qui elle-même était très très libre.
Et qui l'a trompé souvent.
Alors je crois qu'il en a souffert, mais qu'il l'a admis finalement. Bon, et puis lui-même, il est devenu impuissant. Il faut dire ça aussi. Il était comme bien d'autres personnes de sa génération tuberculeux. Il est mort très très jeune de la tuberculose. Et donc les dernières années de sa vie, il devait certainement pas être capable de satisfaire sa femme. Mais il y a eu, moi, une des choses aussi qui m'avait beaucoup frappée au début, c'est que cet homme a eu énormément d'amis femmes. Beaucoup d'entre elles, qui étaient des intellectuelles, ont écrit sur lui après sa mort.
Notamment Anaïs Nin.
Anaïs Nin, il ne l'a pas connue, mais Anaïs Nin, son premier livre publié, Anaïs Nin, c'était consacré à Laurence. Et c'était avant qu'elle ait pu lire, d'ailleurs, Lady Chatterley. Et en fait, je crois que cet homme a, même s'il a voyagé beaucoup, beaucoup vécu entouré de femmes, avec la passion de les observer, ces femmes nouvelles, voilà, qui prenaient leur indépendance.
Y compris des suffragettes, parce qu'il en avait.
Y compris, oui, il a eu une première petite amie qui était une suffragette. Et d'ailleurs, il y a des suffragettes qui apparaissent justement dans les premiers romans. Bon. Et je crois qu'il les a fait parler. Il y a ce genre de témoignage dans un certain nombre de ces ouvrages que ces femmes lui ont consacrés, où elles racontent qu'elles ont le soir, il y avait une Américaine par exemple qu'il avait fait venir au Nouveau-Mexique, et elle raconte que le soir sur la terrasse, ils passent de longues heures à discuter. Et je pense que Laurence cuisinait ses amis pour savoir comment ça se passait pour elle, quoi. Sur ce
on
plan-là.
Écoute un nouvel extrait de L'amant de Lady Chatterley.
La vie. On nous parlait toujours de la vie. Mais cette vie, qu'était-ce d'autre que sans cesse ressentir une sensation d'art, bien sûr, que ce soit en se postant devant un tableau ou devant un décor naturel? Qu'était-ce d'autre qu'orner son esprit, interminablement, de toutes les brillantes poussières de savoir qui passaient à notre portée? Qu'était la vie pour elle en dehors de cela? Quel intérêt y avait-il à être la châtelaine de Rugby, si ce n'est peut-être que Rugby était beau à ses yeux? À quoi bon être appelée Lady Chatterley, si ce n'est le fait que cela sous-entendait quelque chose de raffiné en matière de vie, et qui l'élevait au-dessus de la plèbe? Qu'était-ce que son mariage avec Clifford? Rien d'autre que la pratique des évanescentes griseries de quelques poèmes, de quelques paysages peints ou réels, ou d'une œuvre musicale. Rien d'autre que la petite sensation d'avoir connu, grâce à lui, ou par la seule puissance de la communion, quelque nouvelle idée, quelque échappée sur une nouvelle réalité, quelque chose comme une révélation de la vérité. Qu'était sa vie en dehors de cela? Rien.
Alors on a l'impression, Catherine Millet, que dans son roman, Laurence oppose les intellectuels avec des hommes qui, plus frustes, seraient aussi plus à l'écoute finalement de leur corps, de leurs désirs. Et en même temps, dans les différentes versions qu'il a écrit, les trois versions dont vous nous parliez au début de cette émission, il va faire du personnage du garde-chasse quelqu'un qui sera de moins en moins frustre.
Absolument.
On a l'impression qu'il cherche quand même toujours la bonne distance, lui-même fils de mineur, évoluant dans la bonne société, la société intellectuelle, puis ensuite partant à l'étranger, vivre dans des conditions modestes. Il cherche toujours aussi la bonne distance entre le corps et l'esprit.
Oui. Bah, en fait, l'évolution du personnage du garde-chasse, je pense que c'était dans une volonté de quand même pas trop choquer, de réduire le contraste entre cet aristocrate lettré comme ça et puis ce garde-chasse. Et en effet, alors le garde-chasse c'est un personnage très mélangé, parce que en même temps il aime bien utiliser des mots assez crus. Il apprend des mots d'ailleurs à Constance Chatterley, des mots qu'elle n'ose pas utiliser, quoi, qui sont des mots du vocabulaire sexuel. Et puis, il a un parler des fois très, très populaire, en fait. C'est...
Mais il l'utilise d'ailleurs à dessein, parce oui. qu'il peut très bien parler un anglais parfait, presque aristocratique, mais il fait exprès...
Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que, et en même temps, il apparaît comme... ayant un peu de vernis culturel quand même, en tout cas dans la dernière version. Bon, donc ça, je pense que c'était quand même pour peut-être un peu moins choquer ses lecteurs, c'était raté, mais enfin bon. Et puis, oui, je crois que, en fait, Laurence appartient à une époque à la fois très... très raffiné, très très sophistiqué, surtout venant d'Angleterre comme ça. Et puis où il y avait, où il a été, je pense, hanté par cette perte du contact avec la nature. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a été vers la fin de sa vie, en tout cas dans la deuxième partie de sa vie, fasciné par les cultures primitives. Il est allé au Nouveau-Mexique.
En Australie.
Il est allé au Mexique. Il était allé auparavant en Australie. Mais je dirais que c'est surtout en Amérique, comme ça, qu'il est allé à la rencontre de ces peuples dont la culture, qui était une vraie culture, bon, qui l'a intéressé. Il y a des récits de voyage magnifiques où il décrit des rites chez les Indiens, comme ça, il en fait une description très très belle, bon, où cette culture était encore ancrée dans la nature. Et il y a une forme de panthéisme, forcément, chez Laurence.
Alors oui. On reviendra sur tout cela, Catherine Millet, en seconde partie de cette émission, juste après la chronique de Mayalen Berasategui.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mayalen Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous évoquez La Cousine Bête, roman d'Honoré de Balzac, 80 ans avant l'amant de Lady Chatterley. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un récit qui ferait de la sexualité un élément indissociable de toute relation amoureuse?
Mais je crois, dans la mesure où toutes les actions des personnages du roman visent à obtenir un amour exclusif qui est une dimension sexuelle, ou à se venger de ne pas pouvoir obtenir ça. Parce que La Cousine Bête, ça commence par le récit de l'amour impossible entre le personnage éponyme et un Polonais qui s'appelle Wenceslas Steinbock. Et cet amour est incomplet parce qu'il ne peut pas être consommé, la raison officielle étant qu'il est plus jeune et plus beau qu'elle, qui est vieille fille.
C'est une mauvaise raison.
Voilà. C'est une très mauvaise raison. Et donc, en fait, jusqu'à sa rencontre avec le comte, Bette, elle avait toujours décidé d'être indépendante. Elle avait refusé des maris, elle avait monté son entreprise, elle avait travaillé comme ouvrière. Donc, elle était complètement à la marge de sa famille qui avait fait fortune, mais elle avait son indépendance. Donc, elle sauve le comte du suicide, elle l'entretient, elle le harcèle parce qu'il veut devenir sculpteur, donc elle se débrouille pour qu'il bosse. Mais elle est incapable, pendant plusieurs années, d'initier quoi que ce soit de sexuel. Donc, elle se fait rafler son polonais par sa jolie cousine Hortense, et elle veut se venger. Donc, ce qu'elle fait, c'est que...
C'est pas bien non plus.
C'est pas bien non plus, mais elle y va, et elle fait ça très très bien. Elle prend le père d'Hortense, qui est le baron Hulot, et elle le met entre les mains d'une maîtresse, qui est une amie à elle, Madame Marneffe, et qui va complètement le manipuler et le plumer.
Ce qui fait que le baron Hulot obtient le contraire de ce que la cousine Bette avait, c'est-à-dire une relation tarifée, mais sans amour.
Et absolument, et ça ne lui va pas du tout, à lui et à tous les autres amants de la même maîtresse, parce que pour chacun d'entre eux, c'est fondamental d'être aimé de Madame Marneffe et surtout d'être le seul à être aimé d'elle. Donc il y a une demande de relation sexuelle et d'amour exclusif. Et en même temps, ils sont prêts à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour ça et à attendre très, très longtemps pour ça. Mais ce que montre Balzac, c'est que même une relation qui a tous ces éléments, qui est un amour partagé, avec une dimension érotique très forte, ça ne suffit pas. Même quand la relation amoureuse fonctionne, comme ça a été le cas pour le baron Hulot et pour sa femme pendant les premières années de leur mariage, ça dure pas, et ça peut même anéantir le reste. Le baron Hulot, il dilapide sa fortune, et le comte Steinbock, une fois qu'il est avec Hortense, en fait, il devient incapable de bâtir une œuvre, de devenir sculpteur, parce que, alors, il lui fait des enfants, mais du coup, il fait plus de statues. Et quelque part, dans La Cousine Bête, quel que soit la relation que vous avez, il y a toujours un prix à payer. Il n'y a jamais de bonne solution.
Oh ben c'est bien triste. Qu'est-ce que cette incapacité générale à être satisfait en amour révèle de la société du 1er 19e siècle, Maya Lane ?
Je pense que de la même façon qu'il n'y aurait probablement pas d'amant de Lady Chatterley sans la paralysie du mari de Lady Chatterley, qui est une conséquence de la Première Guerre mondiale, je pense que dans La Cousine Bête, on suit une génération d'hommes qui avaient trouvé sa légitimité dans les guerres napoléoniennes, dans le combat. Et ces hommes-là, en temps de paix, sont devenus, enfin, vivent une vie qui n'est pas la vie qu'ils avaient choisie et qui est, d'une certaine manière, je crois, une forme de paralysie. Le baron Hulot, c'est devenu un fonctionnaire de ministère, ça lui va pas du tout. Il a un frère qui était maréchal d'Empire, il est devenu sourd à force d'entendre le bruit du canon, du coup, il peut plus communiquer avec personne. C'est des gens qui vivent dans un monde qui est passé, en fait. Même le comte Wenceslas Steinbock, qui est polonais, donc lui, son pays se fait occuper par la Russie, mais bon, il va pas aller prendre les armes, il va pas aller essayer de faire de la politique pour changer ça. Donc c'est des gens qui s'ennuient prodigieusement, qui n'ont plus vraiment de possibilité de gloire, et finalement, peut-être que la course à l'entretien des maîtresses, c'est une forme de palliatif à cette frustration-là. Et du côté des femmes, c'est pas mieux, parce que, bon, elles sont globalement de toute façon beaucoup moins libres que dans leur vie sexuelle que les hommes, mais en fait, le rêve de la cousine bête, d'avoir un homme plus jeune qu'elle, qui serait totalement dépendant d'elle et qui pourrait pas partir parce qu'il serait dépendant d'elle, n'est pas très très différent des hommes qui se moquent d'elle, mais qui prennent en charge des petites ouvrières pour se les garder en espérant qu'elles ne deviendront jamais actrices et qu'elles ne se taperont jamais des hommes plus riches qu'eux. Donc, par conséquent, Balzac étant Balzac, comme très souvent au XIXe siècle, la cousine bête, ce n'est pas une femme libre, c'est une femme virile, ce qu'on dit dès qu'une fille bouge un orteil dans le premier XIXe siècle, avec force sous-entendue homoérotique, et ça en dit probablement autant sur les représentations de l'époque que tout le reste du roman, à mon avis.
Je vois sourire Catherine Millet.
Oui, je trouve ça très intéressant, parce que vous avez très très bien choisi cet exemple de ce roman de Balzac. En effet, moi je trouve que ça résonne formidablement avec Lady Chatterley.
Voilà, la cousine bête de Balzac, petite encyclopédie des amours
dysfonctionnels. Ça prouve une chose, c'est quand même la très grande naïveté des hommes, souvent par rapport aux femmes, non ?
Oui,
pas.
Oui.
Bon, je voulais discuter entre vous. À bientôt, Maya Lane.
Merci.
La compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, alors que nous parlons d'amour et de romans d'amour depuis lundi et jusqu'à demain. Aujourd'hui, c'est Catherine Millet qui nous parle de sa lecture de L'amant de Lady Chatterley, célèbre roman de D.H. Lawrence, dont voici un nouvel extrait lu par Guillaume Gallienne.
Elle sentait qu'elle était arrivée au soubassement le plus primitif de sa nature et qu'elle était essentiellement sans honte. Elle était soi-même, dépouillée et sans honte. Ce fut un triomphe, presque une gloire. C'était donc ainsi. C'était là la vie. C'était ainsi qu'on était vraiment. Il ne restait rien qu'il fallût cacher ou dont on dut rougir. Elle partageait son ultime nudité avec un homme, avec un autre être. Maintenant, elle en était sûre. Profondément dans les assises même de son âme, elle avait secrètement soupiré après cette battue phallique et elle avait cru qu'elle ne la connaîtrait jamais. Et soudain, c'était cela. Quel menteur, les poètes et tous les autres. Ils vous font croire qu'on a besoin de sentiments quand au contraire, ce dont on a suprêmement besoin, c'est de cette sensualité perçante, consumante, peut-être horrible. Trouver un homme qui sache s'y livrer sans honte, sans péché, sans remords. S'il avait eu honte ensuite, s'il avait fait partager sa honte, quelle horreur! Quel dommage que la plupart des hommes soient si facilement honteux comme Clifford, le suprême plaisir de l'esprit. Qu'est-ce donc pour une femme? Et même pour un homme, cela ne fait qu'embrouiller les idées. Même pour purifier et clarifier l'esprit, il faut la sensualité sans phrase. La pure, brûlante sensualité, et non un brouillamini d'idées.
C'est un roman sur la honte, ou plutôt sur la fin de la honte également, Catherine Millet ?
Oui, sur la fin de la honte, pas du tout sur la honte, parce qu'en fait, il y a pratiquement pas de culpabilité exprimée par Lady Chatterley dans sa relation avec...
En fait, elle a même une vision assez cérébrale des choses, paradoxalement, parce qu'elle voit la situation de manière assez froide au moment où il faut quitter Sir Clifford.
Ah,
elle
oui.
analyse la situation.
Oui, bah, c'est bien une femme de son époque pour ça, d'ailleurs, en fait, en écho à la cousine Bette, c'est-à-dire qu'elle pense aussi comment s'organiser matériellement, quoi. Elle a un peu d'argent, elle dit si je quitte mon mari, bah voilà, elle s'adresse à son amant, on va acheter une petite ferme, tu vas exploiter cette ferme, voilà. Elle pense aux choses d'une manière très, très concrète, en fait. Ça, c'est, il faut aussi le souligner.
En tous les cas, c'est un manifeste pour une sexualité plus libre. Les années 60 qui vont découvrir l'amant de Lady Chatterley, puisque comme vous l'avez dit, ce livre a été interdit pendant très longtemps, ne vont pas passer à côté. Et on peut imaginer que ce livre a contribué à la libération sexuelle des années 60, disons.
Et peut-être a été la cause, pour une part, de l'oubli de l'auteur dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire qu'on a tellement associé Laurence et surtout bon et puis ce roman tellement célèbre L'amant de Lady Chatterley à cette époque de libération sexuelle, on en a fait tellement un des modèles de cette époque que cette époque passée on l'a un peu négligé en pensant que c'était démodé quoi, en fait que ça y était, c'était passé, on n'avait plus besoin de le lire. Et puis même l'idée de cet aristocrate qui trompe son mari avec un garde-chasse, vous imaginez bien, les conditions sont plus réalisables aujourd'hui, ça n'existe plus ce genre de...
Il n'y a plus de garde-chasse.
Il n'y a plus de garde-chasse, en tout cas, pas comme ça, mais... Donc, en fait... Je crois qu'on partait, ça a été d'ailleurs mon erreur pendant un certain temps, de penser que j'avais rien à y trouver, quoi. C'était.
Mais qu'est-ce que vous y avez trouvé alors que vous ne connaissiez pas déjà d'une certaine façon?
Non, bah, j'y ai trouvé, je le répète, une description. Alors là, je parle, c'est du point de vue littéraire, une description du plaisir féminin qui est exceptionnelle. Ouais. Les quelques pages où il décrit l'orgasme féminin, j'aurais aimé les avoir écrites, mm-hmm. en fait. Comment se fait-il que c'est un homme qui écrit ça et pas une femme? Voilà, j'ai jamais lu ça dans un ouvrage de femme. Donc c'est ça qui est absolument étonnant et quand même sans... Bien sûr, il passe par des métaphores, mais quand même, en même temps, il est très très concret. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je pense qu'il a fait accoucher les femmes qu'il fréquentait, quoi. Il leur a tairé les vers du nez, si je puis dire.
En fait, c'est un roman réaliste. Il y a quelque chose de
très réaliste.
C'est
très réaliste. C'est souvent très réaliste, Laurence. Très très réaliste. Oui, oui. C'est quelqu'un qui est magnifique dans les descriptions.
Et ça correspond bien avec ce qu'était votre projet dans la vie sexuelle de Catherine M, puisque vous dites que vous avez voulu rétablir la vérité des faits parce que, je vous cite, les philosophies utopistes, les modes d'emploi hygiéno-militants, la littérature libertine et les images pornographiques où jamais coït ne faillit avaient fini par m'agacer, donc dites-vous. Et c'est amusant que, en effet, vous n'ayez pas eu la possibilité, enfin que vous n'ayez pas lu ce livre finalement, avant d'avoir écrit La vie sexuelle.
Oui, parce que je pensais que j'en avais pas besoin en fait. Voilà, c'est ça. Et bon, parce qu'en fait, j'avais pas à me libérer. Je répète, j'appartiens à une génération comme ça qui est rentrée de plein pied dans la liberté sexuelle sans se poser de questions. J'avais cette absence, je crois, et c'est aussi pour ça que j'ai aimé les personnages de Laurence, cette absence de morale. Voilà.
Il y a l'innocence du plaisir
dans
ce livre-là.
J'avais pas au-dessus de la tête ni une morale bourgeoise que ma famille aurait pu m'inculquer, et encore moins une morale religieuse. Je suis rentrée comme ça. Il y a aucune raison de culpabiliser, de prendre du plaisir, quoi. à prendre du plaisir.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les femmes qui ont écrit sur Lawrence. Il y a Anaïs Nin qui a parlé chez lui d'écriture androgyne.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez derrière cette expression?
En fait, je pense qu'elle entendait ça, c'est-à-dire qu'il a une façon de parler des femmes et du point de vue des femmes qui est tout à fait étonnante, comme si c'était une femme qui avait écrit. Enfin, c'est ça qui est très troublant. En fait, très troublant. Alors du coup, on lui prête des petits penchants homosexuels à Lawrence, qui sont pas à nier.
En même temps, il y a le culte de la virilité aussi chez lui, comme on le disait tout à l'heure.
Beaucoup d'homosexuels ont le culte de la virilité, bien sûr, et les descriptions. Alors.
Enfin, quand il dit dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure que Clifford était malgré tout un peu efféminé, ça sonne pas de manière très laudative quand même.
Non, mais en fait, tous les homosexuels ne sont pas efféminés. Et alors, c'est une chose qui est très, très frappante, c'est que cet homme qui comprenait tellement bien les femmes de l'intérieur en a pas donné des descriptions physiques très intéressantes ou très, qui suscitent l'empathie. Alors que ces descriptions de corps d'hommes sont absolument extraordinaires. Mmh. Je rappelle comment Constance Chatterley découvre, voit pour la première fois, d'une certaine façon, comme objet érotique, le garde-chasse. Il est en train de faire sa toilette, elle le surprend en train de faire sa toilette, il est nu jusqu'à la taille, et elle voit ses reins magnifiques. Mmh. Voilà. Et il y a des descriptions, très souvent, dans les romans, comme dans les essais d'ailleurs de Lawrence, de corps d'hommes, qui montre que quand même, il devait avoir du goût pour ces corps d'hommes.
Et d'ailleurs, vous terminez votre essai en parlant, en disant qu'il a peut-être vu, alors je vous cite de mémoire, vu l'avenir homosexuel de la société. Vous dites quelque chose un petit peu comme ça.
Oui, c'est un propos rapporté. Je crois que c'est un témoin qui dit avoir parlé de ça avec Lawrence.
Enfin,
Lawrence aurait exprimé, il constatait une chose déjà à son époque, et que moi je trouve, je vérifie, c'est que on vit dans une société où les femmes recherchent plus le commerce des femmes et les hommes recherchent le commerce des hommes.
J'ai l'impression qu'il y a une séparation.
Il y a une séparation
des sexes.
Oui, je trouve. Alors c'est compliqué tout ça parce que c'est assez flottant. Il y a le magazine Vogue qui vient de consacrer tout un numéro au contraire aux figures androgynes, mais à celles qui vont de l'un à l'autre. Vous savez, un jour on est un garçon et l'autre jour on est
une fille.
La transsexualité, mais aller-retour, si je puis dire. Donc, ça c'est encore autre chose. Mais moi, je suis très très frappée par ça. Je donne toujours l'exemple que si un jour de printemps, vous passez devant une terrasse de café, vous verrez des tables où il y a principalement que des filles et puis des tables où il n'y a que des garçons.
Mais là, dans l'amant de Lady Chatterley, c'est pas ça. C'est quand même bien la rencontre d'un homme et d'une
oui,
femme
même.
Dans le plaisir.
Oui. L'humanité, pour continuer, a besoin de ça quand même. Oui.
Alors, il y a un mot d'Henry Miller qui est un petit peu étonnant. Je vais vous le faire commenter. Il dit, dans les romans de Lawrence, on ne peut être qu'abasourdi par la violence des antagonismes et par la haine de la femme dont il fait preuve. Vous voyez une haine de la femme, vous, dans l'amant de Lady Chatterley?
Non, pas du tout. Alors, ce que ça peut vouloir dire, ça, mais c'est une lecture très très superficielle, c'est-à-dire que, vous l'avez rappelé vous-même, Lawrence est un auteur pour une grande part réaliste, décrivant ces femmes qui se libèrent. Il montre les aspects positifs de cette libération. Et puis il en montre aussi les exagérations, il en montre les caricatures. Il y a un essai où il parle de ces femmes, par exemple. Il parle de la difficulté, d'ailleurs, pour les hommes comme pour les femmes, de trouver de bons modèles identificatoires pour ces femmes nouvelles. Bon, alors
Certains de ces modèles identificatoires, c'est des hommes, c'est-à-dire que les femmes se travestissent en hommes. Et au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Alors ça, ils s'en moquent, par exemple. Ou les jeunes filles émancipées qui surjouent leur émancipation, vous voyez, et donc qui deviennent très provocantes à l'égard des hommes auxquels elles ont affaire. Donc, en fait, voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Non, simplement, il se moque des travers de cette émancipation, quoi, ou de ces exagérations.
Bon, après, ça appartient à Henry Miller.
Oui, oui. Mais ça, Miller, elle devait être aussi très, très jaloux, je pense, de Lawrence.
De Lawrence, ouais.
Ah oui. Mais son livre est très, très intéressant. Il est très confus. Vous savez, il a mis, je sais pas, 30 ans à l'écrire. Anaïs Nin avait publié le sien depuis très très longtemps, quand lui avait été encore en train de travailler sur le sien. Et donc, oui, il a un rapport très ambigu à Lawrence.
Et alors sur les femmes, les autres types de femmes dans les romans de Lawrence, parce que donc il y a l'amante, l'amoureuse, mais est-ce qu'il y a aussi des mères, est-ce qu'il y a aussi des sœurs?
Ah, il y a la mère, bien sûr, filles bien sûr. Il y a la mère castratrice, pour dire les
elle
choses
très simples. Elle est toujours
castratrice? Il n'y a pas toujours, non, pas toujours. Il y a des exemples de mères très terriennes, comme ça, mais Amant et fils, qui est un des tout premiers romans et qui est largement autobiographique,
qui est très beau aussi,
qui est très très beau, qui est un des chefs-d'œuvre de Lawrence, fait un portrait de la mère à la fois adorée, cette mère, et avec de très très grandes qualités, parce que elle assume beaucoup de choses dans sa vie difficile, mais en même temps très très jalouse des femmes dont son fils ou ses fils pourraient tomber amoureux, évidemment. Ça, c'est donc il y a le poids de cette mère, quand même, oui, qui est terrible.
Et lui-même, alors, lequel de ces personnages, d'après vous, est-il le plus, vous qui l'avez du coup fréquenté beaucoup? Est-ce que c'est lui, Lady Chatterley, ou est-ce que c'est Sir Clifford, ou est-ce que c'est Mellors, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Mellors, le garde-chasse, dans toutes les versions, ce qui est
aussi intéressant. Oui, non, ça, il change de nom, il s'appelle Parking au début, oui. Moi, je crois que comme beaucoup, enfin, c'est un peu une banalité de dire ça, je crois que comme beaucoup d'auteurs, il s'éparpille lui-même dans tous ses personnages. Ce qu'il y a, peut-être qu'il faut souligner, c'est que Lady Chatterley étant le dernier roman d'un homme très, très malade, qui a beaucoup lutté tout au long de sa vie pour imposer sa morale très très libre. C'est un rêve d'un amour heureux qui s'accomplit en quelque sorte. Je crois qu'il y a parce qu'il y a quand même dans ces histoires d'amour précédentes beaucoup de ratages, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de couples qui se séparent, qui se déchirent ou qui ne se comprennent pas même lorsqu'ils s'aiment. Il y a des couples qui s'aiment très fort dans certains romans de Lawrence et qui en même temps n'arrivent pas à se comprendre complètement. Bon.
Donc c'est un récit sur l'amour autant que sur la libération du corps, que sur le sexe.
Oui, moi je pense que c'est quand même un roman d'amour. C'est quand même, en dépit de ce qu'on dit parfois, c'est très ambigu. C'est très ambigu. Il y a quand même un rapport amoureux entre ces deux personnages. C'est pas simplement une rencontre sexuelle. Il y a quelque chose.
Ils décident de faire leur vie ensemble.
Ils décident de faire leur vie ensemble.
On ne sait pas si ça va bien se passer.
On ne sait pas. Mais c'est pour ça que c'est un rêve. Voilà. On reste, vous savez, il y a eu à l'époque un article que je trouvais idiot de François Mauriac sur Lady Chatterley, qui était évidemment
disait François Mauriac
de Lady Chatterley? Pas des choses très gentilles, il faut dire.
Bon,
il posait la question, il disait, imagine-t-on cette Constance Chatterley ayant vieilli auprès de son garde-chasse, ayant rencontré les difficultés de la vie matérielle, etc. Bon, et il laissait entendre que ça aurait été évidemment complètement raté. Mais la question se pose pas, on a le droit de rêver à cet amour comme ça que...
que, on ne sait pas s'il y avait un garde-chasse dans les bois de Malaga qui aurait pu inspirer aurait François pu Mauriac. Merci beaucoup Catherine Millet.
Merci à vous.
Votre essai « Aimé Lawrence » a été publié en 2017. Il est disponible aux éditions Flammarion. On peut par ailleurs lire « L'amant de Lady Chatterley », dont il a été évidemment question dans cette émission, dans la collection du livre de poche « Édition classique ». C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Clément Daté. Demain, dernier épisode de notre série sur les grands textes de la littérature amoureuse. Nous parlerons de La Chartreuse de Parme de Stendhal, ainsi que du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, deux œuvres au programme des prépas scientifiques. Nous serons pour ce faire avec Emmanuel Caquet et Frédéric Saillère. Mais tout de suite sur France Culture, un peu de poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Avec Volker Braun, cette semaine, on repart en toute innocence. Wilderness. Ce titre de ses derniers poèmes, inspiré du paradis perdu du poète anglais Milton. Wilderness of sweets. Venant du ventre de ta mère, et oint de merde, tu connais les sensations du sang qui gronde, les battements du sombre lagon, la fougère secrète de ce cordon de sable enivré de sens. Tu ne saurais être plus près du cœur, complice d'un plaisir éhonté, bien au chaud, dans l'angoisse, en plein utérus océan. Expulsé tout nu, traumatisé en l'univers de ton unique personne, peux-tu oublier l'origine, l'espérance, le havre du golfe amniotique? Avorton que tu es, te voilà buvant la mare de kérosène sur l'airport Cape Town, je te montre un endroit pour mariage, loin de tout, masqué par la couverture des dunes, sel et herbe, à l'embouchure de la Taos River, Eden District, où les mers se mêlent et tous êtres, les embruns, les léchants tous, jusqu'en leur fond minéral, ô diversité, multiplicité, jungle des totalités, qu'aucune certitude ne dompte, impétueuse, aucune loi ne lui dicte sa survie, et je hume à nouveau l'envie de communauté. Ce qui est nécessaire, sans contrainte, liberté intraitable. Et là, on chanterait presque « Marlborough is red, red is Marlborough ». Bon, dormir, se reposer, allongé, tu souris, éveillé. Ce n'est que mon corps qui continue son chemin, par je ne sais quelle route, pour aller où donc? Tu voulais embrasser les mondes inconnus, je connais tout ça à présent. C'est le désert. Le désert, dis-tu, ou le bien-être, dis-je. Jouis, respire, mange, ouvre tes mains. Jamais plus ma vie n'ira vers un tournant. Et toujours dans ce choix de poème plus confidentiel, moins politique, Les huîtres, un poème qui est dédié à Alain Lance, le traducteur, qui sans doute avait amené des huîtres en RDA. Il est rare que je vive vraiment, toi, depuis des heures. Tu ouvres dans ma cuisine les huîtres parvenues jusqu'ici, munies de nombreux papiers et la main endolorie dans le gant de plastique. Tu chantes, les wolves, eux, ne songent plus qu'à boustifailler, ce qu'ils font, comme le reste, avec profondeur. Voilà des êtres humains. Et moi, avec force citron, j'anesthésie. Oui, car apparemment, le démon de Volker Braun n'aime pas trop les huîtres. J'anesthésie d'abord les bestioles nues, puis mon palais, et sans vaillance, j'avale, tandis que du gobe, avec volupté et répulsion ces petits connards de la mer. Eh bien, soit, dis-je, laissez la vie fondre sur la langue, entre désir et dégoût. Oui.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisez toute la semaine des poèmes de Volker Braun.